Merci, monsieur le président de session. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes vos questions, mais comme on est plusieurs, on pourra se...
Non, non, mais il est hors de question que vous répondiez à toutes mes questions maintenant, parce que je n'ai plus rien à dire.
Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas. Il en restera tout plein qui resteront ouvertes. D'abord, je voudrais féliciter les organisateurs de ces journées d'études qui ont un très grand succès et remercier Antoine Doutsum d'avoir organisé cette session et de m'y avoir associé. Le thème est argent public, c'était plutôt action publique, si mon souvenir est bon, argent privé, qui dans le vocabulaire actuel chez les économistes, mais aussi chez les praticiens, se traduit beaucoup par le thème des partenariats publics-privés. Et c'est donc sur cette question que je voudrais intervenir brièvement pour lancer la discussion en complément avec les membres du panel, d'essayer de soulever trois questions. Qu'est-ce qu'on entend par là et comment ça se situe par rapport à d'autres formes, très succinctement? Pourquoi les partenariats publics-privés se développent à l'heure actuelle? Et puis terminer en faisant un certain nombre de remarques sur pourquoi c'est si difficile, parce qu'on va voir que ça progresse très lentement pour des raisons complexes. Alors de quoi s'agit-il? Je vais peut-être introduire ça en le liant à l'actualité fait bien les choses. Il se trouve que les prix Nobel de cette année, et en particulier Williamson, est quelqu'un qui a beaucoup contribué au développement à la fois théorique mais aussi appliqué de ces problèmes. Et un certain nombre de leçons peuvent être tirées de ce cadre qui sont pertinentes pour notre débat d'aujourd'hui. Première leçon, c'est la finesse de Williamson d'avoir souligné la diversité des modes d'organisation dans une économie de marché, et en particulier dans la fourniture de biens collectifs. Il n'y a pas une seule façon de faire, hein, et ceci se traduit donc par une grande diversité. Alors, très succinctement, je ne vais pas commenter ce graphique, hein, si on retient deux grands axes d'analyse, l'aspect... allocation des droits de propriété d'un côté, allocation des droits de décision avec les problèmes d'incitation que ça pose de l'autre, mais on voit qu'on a un étalage très grand, hein, entre, dans le cas de l'offre de biens et de services publics, entre le bureau dans un ministère ou dans une collectivité locale, donc à un extrême, la privatisation intégrale à l'autre extrême, et puis toute une série de formes intermédiaires, hein, qui se traduisent par des degrés différents d'autonomie dans les droits de propriété et les droits de décision. Donc déjà par ce graphique que je n'ai pas le temps de commenter, sur lequel éventuellement on reviendra, on voit la diversité des formes, et en particulier la diversité des formes intermédiaires, hein, entre les formes de services, de contrats de management, d'affermage, de concession, qui sont autant de formes. Donc une grande diversité avec, dans le cadre de l'offre de biens publics, des formes très variées de partenariats. Dans le cas de la France, cette interaction entre l'action publique et l'argent privé, mais aussi les agents privés, prend deux formes principales. Traditionnellement, la délégation de services publics, qui a pas mal évolué au cours des dernières années, dont je parlerai peu, mais je crois que ça reviendra sur la table par la suite. Et puis une formule beaucoup plus récente, puisque une première ordonnance date de 2004, et puis la loi qui formalise ce type d'approche date de 2008, juillet 2008, ce qu'on appelle les contrats de partenariat. Au fond, les contrats de partenariat essaient de capter au moins en partie ce que la tradition anglo-saxonne en particulier appelle les contrats de partnership, c'est-à-dire partenariat public-privé, mais ne le capte qu'en partie. Bon, alors pour mémoire, mais je ne vais pas vous le... Hein, c'est l'article de la loi de 2008 qui définit le contrat de partenariat, hein, qui précise bien que c'est un contrat où une autorité publique confie à un tiers l'ensemble de l'élaboration, du financement, des objectifs, de la maintenance, etc., d'un équipement ou d'un bien qui est nécessaire pour assurer un service public. Donc, manifestement, puisqu'on a cru bon de l'encastrer dans une loi, on veut donner beaucoup plus de poids à ces formes que ce n'était le cas précédemment. Alors, une deuxième leçon importante de l'approche qu'on peut tirer des travaux de recherche de quelqu'un comme Williamson, et qu'on a beaucoup développé, y compris un certain nombre de collègues en France, y compris en liaison avec les entreprises d'ailleurs, hein, Veolia, Vinci, etc., c'est qu'aucune de ces modalités n'est intrinsèquement supérieure aux autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modalité parfaite, hein, il n'y a pas un étalon, voilà, je cherchais mon mot, hein, partir duquel on pourrait situer tous les autres et qui serait une sorte d'idéal. Au contraire, la littérature à la fois théorique et empirique, et les expériences montrent bien qu'il y a des défaillances dans tous les cas de figure et que le succès d'une forme est conditionnel à un certain nombre de choses. Et conditionnel, et c'est la troisième leçon, hein, l'efficacité du mode choisi va dépendre d'une part du type de transaction, de transfert de biens ou de services qu'il faut organiser, mais aussi, et ça a été beaucoup mentionné ce matin, y compris par des intervenants politiques, de la qualité de la gouvernance, du pilotage, donc du mode qui est retenu, que ce soit une régie publique ou un contrat de partenariat ou la privatisation complète, hein, ce qui oblige à entrer dans la boîte, ce qu'on appelait la boîte noire traditionnellement, c'est-à-dire comment ça fonctionne, quelles sont les règles de fonctionnement, est-ce qu'il y a des règles de fonctionnement qui seraient supérieures à d'autres. Et puis, troisième point qui a été mis en relief davantage dans la littérature récente, ça dépend aussi beaucoup de la qualité des institutions qui vont encadrer ces modes d'organisation. Un type de contrat de partenariat peut très bien fonctionner dans un environnement institutionnel. Le partnership à Abidjan, pendant longtemps, en tout cas dans le secteur de l'eau, fonctionnait très bien. C'était une catastrophe totale à Conakry, avec la même entreprise impliquée. Donc l'environnement institutionnel joue un rôle tout à fait fondamental. Donc premier aspect, donc cette diversité des partenariats possibles et des arrangements possibles publics-privés, avec des critères d'efficacité qui sont très tributaires de, à la fois intrinsèques au type d'arrangement choisi et tributaires de l'environnement institutionnel. Deuxième série de questions qui, je pense, vont revenir dans le débat, c'est qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui fait que ces derniers temps en particulier, on va vers ces formes, ces modes d'organisation. Alors je dirais qu'il y a des raisons négatives et des raisons positives qui tiennent beaucoup évidemment à la situation économique, mais pas seulement, qui sont plus profondes, qui vont au-delà. D'ailleurs, ces types d'arrangements existaient avant les difficultés économiques en cours. Alors, du côté des raisons négatives, il y a d'abord des contraintes, c'est des contraintes hein, qui pèsent sur les autorités publiques en particulier et qui les obligent ou qui les poussent à avoir recours à des expertises extérieures. D'abord, des contraintes réglementaires. Hein, par exemple, pour donner un exemple, pour satisfaire les normes sur la qualité de l'eau qui se sont développées, multipliées, devenues très complexes au cours des dernières 20 dernières années, en particulier des 15 dernières années, il faut une expertise qui souvent n'est pas disponible au sein de l'autorité publique, hein, des autorités en charge, et dont les grands opérateurs disposent, et donc on va transférer la responsabilité de l'expertise, mais du coup on a aussi besoin d'associer comme partenaire. Un autre type de contrainte, je dis négatif au sens où c'est des contraintes, je ne veux pas dire, ce n'est pas dans un sens péjoratif, c'est les contraintes financières, bien sûr. Hein, les contraintes financières sont devenues très lourdes à partir essentiellement des années 80 hein, pour les autorités publiques, partout dans le monde, hein, dans les pays en développement initialement encore plus fortement, et puis très rapidement dans nos pays développés. Il faut renouveler, en particulier dans les pays développés, des équipements collectifs qui sont devenus vieillissants, des infrastructures qui sont aussi très vieillies, hein, les États-Unis sont un très bon exemple de ça, hein, d'infrastructures vieillissantes, et donc pour les renouveler, ben, il faut des investissements très importants, et les autorités publiques se sont retrouvées dans un contexte où, au contraire, les contraintes budgétaires devenaient très fortes. Et c'est évidemment pas la situation actuelle qui, malgré les efforts budgétaires pour débloquer la situation, vont dans la durée régler ce problème. Alors du côté des raisons positives, ben, il y a aussi, et ça la théorie économique nous a aidé à voir clair et dans ce point, hein, c'est qu'il peut aussi y avoir des incitations à chercher un mode d'organisation qui soit particulièrement adéquat au type de transaction. En cas des offres de biens, alors c'est vrai en théorie économique en général, hein, surtout la théorie des organisations et des marchés, mais c'est en particulier vrai dans le cas de l'offre de biens et de services publics, puisqu'on a affaire à des transactions très spéciales, puisque, en dernière limite, elles se situent entre les usagers et l'autorité publique. Et évidemment, on ne peut pas passer un contrat au sens strict, en termes économiques, entre les usagers et l'autorité publique, hein, si ce n'est par le biais du système électoral dans le cadre d'une démocratie, ce qui veut dire qu'il y a une dimension politique très forte et inévitable, et peut-être même souhaitable puisqu'on est dans des démocraties, mais qui pose problème, hein, qui pose problème de la relation entre le décideur politique et les usagers, avec tous les problèmes connus de ce domaine. Et donc, une des questions importantes que met en relief l'analyse économique et les travaux empiriques sur ces questions, hein, c'est qu'il faut trouver des moyens de minimiser ces coûts, les coûts associés à cette interférence du politique par rapport à l'économique, interférence qui, encore une fois, peut être souhaitable, mais qui demande à être gérée. Et donc, une des solutions possibles, qui a pris beaucoup d'ampleur à partir des années 80, c'est d'introduire une tierce partie, au fond, entre le décideur politique et l'usager, d'introduire un relais qui peut prendre différentes formes. Une première forme, c'est de donner une autonomie à l'entité publique. C'est le mouvement de corporatization, de transformer en corporation publique avec une certaine autonomie. On l'a bien vu en France dans les années 90. Ça permet d'introduire une distance entre le décideur public et les usagers. Et puis l'autre forme, de ce point de vue-là, c'est aussi évidemment le recours aux opérateurs privés, puisqu'on leur transfère un certain nombre de responsabilités et aussi de risques. Et puis évidemment, dans certains cas, ça permet de leur faire porter le chapeau si les choses tournent mal. Donc des raisons fortes, si on combine toutes ces raisons, qui poussent à avoir recours à ces formes. Alors, troisième et dernière question, c'est bon, voilà de bonnes raisons d'aller vers des partenariats publics-privés, qui sont à la fois des raisons conjoncturelles, les difficultés financières, mais aussi plus profondes. Il y a des modes d'organisation qui sont plus adéquats que d'autres. Et pourtant, ça va être mon troisième et dernier point, ça progresse très lentement. Alors, je n'ai pas le temps de commenter ces graphes, simplement deux séries de données. Une première série, ça concerne le développement des partenariats publics-privés dans les pays en développement. Je m'excuse, ce n'est pas très clair, c'est tiré des données de la Banque mondiale. Et on voit que le nombre de projets, et c'est vrai aussi lorsqu'on garde l'aspect financier, reste quand même assez limité. On parle de l'ensemble des pays hors OCDE. Donc c'est quand même beaucoup de monde, et on voit que le maximum, la pointe est atteinte au milieu des années 90, avec un petit peu moins de 400 projets, et puis ça décline, ça remonte un peu au début 2005-2006, et ça redécline ensuite, mais les données ne sont pas tout à fait actualisées, et on voit surtout que c'est très très centré sur certains secteurs, les télécoms, parce que c'est très profitable avec le développement du mobile, évidemment, à un degré moins de l'énergie, et puis les transports, essentiellement, transports urbains et chemins de fer. Donc très concentré sur certains secteurs d'activité. Donc les contrats de partenariat, ne pénètrent que lentement, non sans difficulté, mais en même temps, c'est des projets, dans certains cas, qui sont très significatifs. De grandes villes, ça concerne beaucoup souvent les grandes villes. Alors si on regarde le cas français maintenant, donc les premières mesures favorables au contrat de partenariat formalisant, en tout cas, ont été adoptées en 2004, et la loi a été adoptée en 2008. Les données que j'ai, c'est des données cumulées sur l'ensemble des contrats partenariat qui avaient été effectivement signés au printemps 2009, donc sur 5 ans. Et sur 5 ans, on s'aperçoit que c'est très peu de choses pour le moment. C'est de l'ordre d'un peu moins de 40 contrats de partenariat. Et vous voyez tout de suite que c'est très concentré, en particulier sur l'éclairage public. Donc sur un certain nombre de services d'équipements collectifs où la responsabilité des opérateurs privés n'est pas trop grande. Pour engager ces contrats de partenariat sur des opérations de plus grande envergure, le processus est beaucoup plus complexe et se heurte à un certain nombre de difficultés. En effet, il y a des problèmes clés qui tiennent à la nature même, lorsqu'on essaie de passer d'éléments comme l'équipement urbain, la voirie ou l'éclairage à des infrastructures plus lourdes, il y a des problèmes de cohérence dans les infrastructures, entre la technologie, le mode d'organisation et le cadre institutionnel, qui se révèle fort complexe, qui varie selon les secteurs, qui varie selon l'environnement institutionnel, et qui vont soulever des problèmes très particuliers. Pensez par exemple à tout le problème du dégroupage, qu'on a vu comme une solution possible pour améliorer les infrastructures du type ferroviaire ou électricité, et qui pose des problèmes de coordination assez délicats, ou même dans le secteur de l'eau, dans le cas britannique, puisque là, il y a eu ce dégroupage. Ceci se traduit par une grande variété de solutions. Je pense que les intervenants le montreront, qui d'un côté fait que, j'arrive à la fin de ma présentation, qui d'un côté fait que, bon, on est maintenant convaincu qu'il n'y a pas une seule solution possible, contrairement à ce que one size fits all, était le mot d'ordre de la Banque mondiale dans les années 90. Bon, maintenant, c'est terminé. Hein. Ça, c'est clair que ça ne marche pas, que ce qui marche dans un endroit ne marche pas dans l'autre, en fonction des éléments que je viens d'avancer. Donc, on est allé vers plutôt du sur-mesure, mais le sur-mesure entraîne aussi des problèmes, hein, puisque on arrive à des contrats très particuliers, donc avec risque de pouvoir discrétionnaire des autorités publiques, risque de capture, soit des autorités publiques par l'opérateur, soit de capture de l'opérateur par les autorités publiques, hein, qui ne respectent pas leurs engagements. C'est fréquent, en particulier dans les pays en développement. Ça se traduit aussi dans la pratique par des coûts de transaction qui ne sont pas négligeables ex ante, ce qui fait que la concurrence pour les contrats de partenariat est souvent limitée, très limitée, hein, ce qui pose problème pour la transparence de la chose. Problème de risque ex post, des risques institutionnels du type interférence politique, mais aussi des risques judiciaires, l'incertitude que peut créer le risque d'intervention judiciaire, hein, de quelles décisions vont prendre les juges s'ils sont confrontés à un désaccord sur les contrats de partenariat, et des problèmes d'encadrement institutionnel. Donc je termine, trois éléments. Je pense que la participation du secteur privé est là pour rester, qu'elle va rester et être de plus en plus multiforme en fonction de l'environnement institutionnel qui sera de plus en plus pris en compte. On voit bien dans les travaux récents, y compris appliqués de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement, et que sans doute ça va rester une forme quand même plus limitée et beaucoup plus contrôlée ou régulée qu'on ne l'avait cru dans les années 90.
Alors, merci Claude Ménard de ce vaste tour d'horizon du secteur. Mais moi, j'ai tout de suite une question pour mon voisin immédiat. Tristan Mathieu, vous travaillez chez Veolia, qui avant s'appelait la Compagnie Générale des Eaux, qui a été créée en 1850 sous Napoléon III et qui fait ça donc depuis un siècle et demi. C'est-à-dire de la délégation de services publics, de la concession. Alors, on met des mots différents. Alors, dites-moi un petit peu, quelle est quand même la différence qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire avec l'antique système de concession, qui était en lui-même calqué sur ce que faisaient les Anglais. Donc, c'est quand même quelque chose sur lequel il y a un gros retour d'expérience. Quelle est la différence par rapport à ce que pourraient permettre ces partenariats publics-privés?
Alors, c'est une excellente question, surtout que la sémantique est un peu complexe, parce que lorsqu'on parle de partenariat public-privé en Europe et à Bruxelles, ça inclut les concessions de services publics. Et ça inclut les contrats de partenariat en règle générale.
Donc ça inclut des contrats d'eau, de déchets, voilà, que vous signez presque tous les jours.
Mais je vais répondre très clairement à votre question. La grande différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui... la délégation de services publics ou les contrats de concession emportent finalement la délégation de la gestion, c'est-à-dire on confère une gestion déléguée sur un service complet, alors qu'un contrat de partenariat est avant tout un outil de financement d'un ouvrage du service, pour faire simple. Et si je veux prendre un exemple, on peut imaginer demain qu'une collectivité nous dise, voilà, moi j'ai par exemple des branchements en plomb, je veux faire un grand plan de financement pour changer ces branchements, et je vais le faire par le biais d'un contrat de partenariat en vous demandant de financer le changement de ces branchements en plomb et d'exploiter après ou de faire la maintenance de ces branchements. Une collectivité ne pourrait pas nous confier le service public de, on ne sait pas quoi d'ailleurs, des branchements en plomb, ça n'existe pas. Donc la grande différence, c'est que pour qu'il y ait délégation de service public, il faut qu'il y ait un service public, alors qu'un contrat de partenariat permet de le faire sur une partie du service public, et le contrat de partenariat va permettre de financer la construction ou l'aménagement d'un ouvrage qui va concourir au service public. Et on peut imaginer un autre exemple, donner un contrat de partenariat par exemple sur des outils informatiques. Donc dans le domaine de l'eau, il est sûr que ce sera l'objet de mon exposé, c'est un cas un peu particulier parce que nous avons assez naturellement l'outil contractuel qu'est la délégation de service public et la concession, mais il n'en demeure pas moins que les contrats de partenariat vont apporter à la commande publique et ont aussi leurs limites.
D'accord. Merci. Alors, je vais maintenant me tourner vers l'autre acteur du secteur, Vincent Piron. Vous êtes chez Vinci. Alors, c'est pareil, vous, ça fait quand même assez longtemps que vous exploitez des autoroutes, des parkings, tout un tas d'équipements. Alors, ces nouvelles formes de partenariat, qu'est-ce que ça peut changer pour vous?
C'est pas nouveau. Les premières concessions ont commencé, c'est le Cloaca Maxima, 3e siècle après Jésus-Christ, Trajan à Rome. La rue de la République était une concession. Il y a toujours des actions dans le commerce, d'ailleurs. Non, la difficulté qu'on a dans le contrat, dans les PPP, c'est de savoir de quoi on parle. Alors, j'ai préparé un petit graphique, c'est celui qui m'a permis de comprendre. Ah,
voilà, donc on va comprendre nous aussi.
Ça fait 40 ans que je fais ça, mais bon, avec ce dessin-là, c'était plus clair. Et d'abord, il s'agit de contrats longs. Je ne parle pas du tout de contrats de travaux. Alors, dans les contrats longs, il y a deux axes importants. D'abord, qui va payer l'ouvrage? Est-ce que c'est un ouvrage payé par la collectivité, c'est-à-dire par vous, par vos impôts, par mes impôts? Ou est-ce que c'est un ouvrage qui va être, in fine, payé par les gens qui l'utilisent comme une autoroute? Et ce n'est pas du tout donc la même clientèle. Et le deuxième axe, c'est de savoir s'il y a beaucoup d'investissements ou peu d'investissement. L'investissement important, qu'il soit nouveau ou qu'il soit de la rénovation, comme on disait tout à l'heure pour les vieux tuyaux de plomb, Tristan Mathieu vous expliquait ça, beaucoup d'investissement ou peu d'investissement. Et voilà, sur ces deux axes-là, vous voyez la concession classique, gros investissement payé par les usagers. Après, il y a en intermédiaire l'affermage.
Donc ça, c'est typiquement l'eau et les déchets, hein, on va dire.
C'est typiquement les infrastructures. L'eau est quand même pas mal en affermage, de plus aussi. En plus. Ouais. Et il y a des contrats de service très légers qui, eux, sont des contrats alors longs au sens 5 ou 10 ans. En infrastructure lourde, on est plutôt dans des contrats de 50, 60, 70 ans.
Donc c'est l'autoroute?
C'est l'autoroute, oui. Alors, de l'autre côté, il y a les contrats de partenariat qui donc ont été mis au goût du jour en France entre 2004, je dirais, et 2008, avec à peu près 15 ans de retard sur ce que faisaient nos partenaires européens. C'est tout bonnement un contrat long qui est payé par les contribuables. C'est typiquement des écoles, des universités, des prisons. C'est difficile de demander aux prisonniers de payer pour leur chambre, des hôpitaux. Donc des contrats pour lesquels c'est le circuit global social qui fournit la rémunération qui tombe donc tous les mois dans la poche de l'entreprise du moment qu'elle fait correctement son boulot. Vous voyez qu'il n'y a rien dans la case bleu clair. Ben non, il n'y a rien dans la case bleu clair et c'est comme ça. Donc voilà les principes de ces grands contrats qu'on fait, je dirais, sous condition, quand on est du point de vue du privé, d'une bonne prévisibilité, parce que ces contrats longs supposent d'y voir clair à 20 ou 30 ans. C'est pour ça qu'on en fait de moins en moins, c'est vrai. Et qu'on a l'inconvénient pour la puissance publique de donner une grande raideur budgétaire, parce que quand la puissance publique a pris une décision en 2009... elle engage l'argent public jusqu'en 2050. Voilà, vous avez à peu près un petit résumé de ce que c'est.
Très bien. Alors, merci. Donc, je reboucle maintenant sur notre histoire d'eau. Donc, Veolia, vous, comment vous utilisez un petit peu ces nouveaux outils au service finalement de votre activité qui, on l'a dit, est très ancienne? Alors,
je vais prendre ce micro. Il y a quelques petites slides pour vous expliquer tout ça qu'on va essayer de passer rapidement. Alors, je le disais tout à l'heure, la grande particularité de l'eau, je voudrais en trois points très rapides dire d'abord qu'évidemment le service les services publics de l'eau et de l'assainissement sont ce qu'on pourrait appeler des marchés matures. Monsieur Escande l'a rappelé, on en fait depuis 1853. On voit d'ailleurs sur ce graphe-là une répartition assez intéressante entre les différents acteurs, que ce soit des acteurs publics, ça concerne le marché de l'eau, ces graphes, les acteurs publics qui... en gros, opère en population un quart des services publics de l'eau et des acteurs privés qui, par le biais de gestion déléguée, opèrent les trois quarts restants de des services publics d'eau avec, vous voyez, des répartitions où Veolia Eau est un peu plus gros que Lyonnaise et Lyonnaise plus gros que Sorre. Des contrats donc et des modes contractuels qui existent depuis longtemps, qui sont très nombreux, 9000 contrats en France de délégation de services publics, un peu plus sur l'eau potable que sur l'assainissement, parce que les services publics de l'assainissement sont des services publics plus récents. Il faut dire aussi que sur les services publics de l'assainissement, la gestion en régie est plus importante qu'elle ne l'est sur les services publics de l'eau, puisque ça représente à peu près 50%. Et donc un schéma dans lequel on a un cadre contractuel.
50%, ça veut dire donc il y a 50% qui sont en régie par les municipalités.
Absolument.
Et le reste est confié à du privé.
Absolument, en matière d'assainissement. Donc vous voyez, pour les deux grands chiffres, c'est trois quarts, un quart, trois quarts privé, un quart public sur l'eau et moitié-moitié sur l'assainissement. Ces contrats... on en compte 9000 en France, hein, si je prends également ceux des autres opérateurs, et ça donne lieu à à peu près entre 600 et 800 appels d'offres tous les ans. C'est-à-dire que je dirais que pratiquement chaque jour, Veolia Eau signe entre 1 et 2 contrats de délégation de services publics. Marché mature aussi parce que il y a une certaine stabilité à qui revient les factures d'eau. Tout à l'heure, on parlait du contribuable ou de l'usager consommateur. Dans l'eau comme dans l'assainissement, ce sont des services qui s'équilibrent, dans lesquels il y a le principe de l'eau paye l'eau, et qui veut dire que l'ensemble finalement des recettes et l'ensemble des charges des services publics de l'eau et de l'assainissement sont financés par les consommateurs, et ils reviennent à un peu plus de 40% pour les collectivités, 40% pour les délégataires, et le reste étant réparti entre l'État et les agences de l'eau qui aident aux subventions et à la mise en œuvre de la politique de l'eau. Mais pour revenir à mon sujet, comment est-ce que nous comprenons ce qu'est un contrat de partenariat ? C'est avant tout un contrat, je le disais, de financement. Et un contrat dans lequel on va confier à une entité qui finance également des activités de construction ou de transformation et de maintenance. Je dois dire que j'ai peut-être une petite nuance à apporter par rapport à ce que disait M. Piron. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on pourrait imaginer des contrats de partenariat qui soient financés par les consommateurs usagers. C'est-à-dire qu'on peut imaginer demain, par exemple, une collectivité qui ferait une station d'épuration et qui aurait envie de le financer par un contrat de partenariat, et elle le financerait, elle le ferait construire par le contrat de partenariat, et l'ensemble des financements de toute façon viendrait des services publics d'assainissement et donc viendrait des consommateurs. Donc le point important, c'est que contrat de partenariat égale outil de financement, et que dans les services publics de l'eau, si on souhaite aller jusqu'à, je suis désolé, mon slide n'est pas très lisible certainement, aller jusqu'à confier la gestion d'un service public, à ce moment-là, on a évidemment la concession. Mais je vais vous donner un exemple de différenciation entre les deux modes contractuels. Il y en a un qui est très clair, qui est celui du transfert du risque de demande. C'est-à-dire que nous comprenons que, assez naturellement, dans les services qui font l'objet de concessions, dans les contrats de concession, comme dans les contrats d'affermage d'ailleurs, ceux où il n'y a pas de financement, le risque de demande est quasiment intégralement transféré sur l'opérateur privé. C'est-à-dire que si demain, et on le voit dans l'eau, il y a des baisses de consommation, 1%, 2%, 3%, c'est quelque chose qui va être transféré à l'opérateur. Alors que le contrat de partenariat n'est pas l'outil qui naturellement permettra de transférer ce risque de demande, puisque les opérateurs vont être financés par les collectivités et par des flux qui sont normalement un peu plus stables. La loi de 2008 n'interdit pas qu'il y ait des recettes annexes qui proviennent des consommateurs, mais on peut dire que c'est une différence entre les deux. Autre différence, certainement la capacité à désigner un chef de file en contrat de partenariat. Il peut se produire dans l'eau, par exemple, que nous ayons des investissements à faire pour lesquels il n'y ait pas une collectivité qui soit clairement identifiée, qui n'y ait pas un syndicat intercommunal compétent. On peut penser par exemple à des unités de compostage. Quand on va faire d'une unité de compostage, souvent c'est une unité qui va aller chercher des boues produits par les stations d'épuration sur l'ensemble d'un département avec une zone, je vais dire, départementale. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on n'est pas un syndicat intercommunal ou une nouvelle communauté d'agglos qui se sente suffisamment investie pour se saisir de ce sujet-là. Et ce que va permettre le contrat de partenariat, c'est de désigner un chef de file, de conventionner et de déterminer un projet. Voilà. Alors, s'il y avait une phrase pour moi qui caractérise le contrat de partenariat, c'est finalement de dire que ce contrat de partenariat, il enrichit la commande publique, il enrichit les PPP par ses performances propres, par sa capacité aussi à déconsolider les dettes, ça je pense que certains autres intervenants en parleront, par la performance économique qui est très claire. Et dans un secteur comme celui de l'eau, il complète assez bien les outils performants qui préexistent. Aujourd'hui, on n'a pas pratiquement de contrat de partenariat dans l'eau. Il existe un cas qui est un peu particulier, qui est l'aéroport de Toulouse, qui était certainement opéré par là où dont le maître d'ouvrage était la CCI, sur lequel il n'y avait pas vraiment de service public, puisqu'on était sur des sujets d'eau pluviale. Mais je crois néanmoins que par ses capacités de recours au financement privé, le contrat de partenariat va être un outil qui va exister en tout cas dans les domaines de l'eau et de l'assainissement.
Voilà. Donc on peut peut-être dire que finalement on peut avoir un contrat de partenariat pour construire une installation et que ça peut déboucher sur un contrat de concession ou de délégation de service public, c'est ça ?
Oui, on peut imaginer des solutions un peu mixtes. On peut évidemment qu'on peut imaginer un contrat de partenariat dans le cadre de régie, c'est-à-dire qu'on se dit qu'une collectivité qui a pour comme critère de vouloir opérer directement un service public peut avoir recours au contrat de partenariat pour faire intervenir du privé tout en continuant à afficher sa gestion directe. Et on peut aussi avoir des cas où on va se voir coexister délégation de service public et contrat de partenariat, et que le contrat de partenariat parfois peut être une première étape vers une délégation, mais souvent quand même, et M. Piron le rappelait, contrat de partenariat égale durée, donc ça installe quand même un opérateur dans la durée, et donc ce sera qu'au terme du partenariat qu'on pourra voir la DSP.
Rappelez-nous très brièvement la durée des contrats moyens que vous signez dans l'eau.
Aujourd'hui, on est sur 12 ans. Il faut savoir qu'il y a une tendance récente qu'il faut peut-être intégrer, qui est un petit retour de la concession. C'est-à-dire que moi, j'ai été très surpris cette année de voir le nombre de concessions dans l'eau qui en sont apparues. Nous, on a signé Chartres, on a signé Rogoine-Cap-Martin, Toulon.
Et ça, c'est sur 12 ans ?
Ah non, ça, c'est plutôt sur 20 ans.
Ah.
20 ans. Les contrats de concession, ce qui est assez logique, dès lors qu'on a du financement, les collectivités vont chercher à amoindrir finalement l'effet de l'amortissement du financement, et tous ces contrats sont sur 20 ans. Cannes, la Lyonnaise des Eaux, a signé Cannes également sur des durées longues. Mais en moyenne, sur l'affermage, qui est quand même le contrat le plus majoritaire, on est sur 12 ans.
D'accord. Alors, je vais me tourner maintenant vers Guillaume Vasmer. Vous êtes en plein dedans, si j'ose dire, puisque vous êtes chargé de piloter justement un très gros projet de partenariat action publique argent privé. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que c'est.
Alors, en deux mots, moi, pour situer mon propos, je suis directeur d'hôpital public de formation et je suis actuellement détaché sur un projet qui s'appelle le projet Étoile, dont l'objet est de mener un partenariat public-privé et plus exactement un contrat de partenariat. Donc mon discours n'a pas forcément de prétention académique, hein, il s'agit simplement d'un retour d'expérience d'un représentant d'une personne publique. Retour d'expérience qui pourrait être un tout petit peu différent des perceptions que peuvent en avoir M. Piron ou M. Mathieu. Donc le contrat que je suis en train de négocier, il va être passé entre une personne publique, en l'occurrence un groupement de coopération sanitaire qui réunit 5 établissements de santé, publics et privés, et un consortium d'entreprises privées qui va être sélectionné après un dialogue compétitif. Et l'objet de ce contrat concerne à la fois le financement, la conception, la construction et l'exploitation d'un centre d'adronthérapie à Lyon à l'horizon 2014. Alors l'adronthérapie, c'est une technique novatrice, assez innovante, qui n'existe pas en France aujourd'hui, qui existe au Japon, qui existe en Allemagne, qui existera bientôt en Italie et en Autriche, mais dans assez peu de pays finalement, et qui permet de traiter des tumeurs cancéreuses qui sont aujourd'hui peu curables par les moyens classiques que sont la chirurgie et la radiothérapie conventionnelle, et encore moins la chimiothérapie, au moyen d'un équipement de haute technologie. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il s'agit, au moyen d'un cyclotron ou d'un synchrotron, de créer un faisceau d'ion carbone ou un faisceau de protons qui va avoir des effets sur les tumeurs cancéreuses qu'on ne peut pas produire avec les moyens traditionnels de lutte contre le cancer. Donc à terme, le centre devrait traiter aux alentours de 2000 patients. Et bon, alors la procédure est en cours, donc il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels vous comprendrez que je ne peux pas trop m'attarder. Mais pour vous donner des ordres de grandeur, on a un montant d'investissement qui est supérieur à 150 millions d'euros. Un montant de loyer annuel qui sera payé donc par la personne publique de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros par an.
Qui paye ce loyer ?
Ce sera le groupement de coopération sanitaire, donc la personne publique qui est constituée par les différents hôpitaux. Et les recettes de cette personne publique émanent de l'assurance maladie, dans la mesure où chaque fois qu'on va traiter un patient, on va facturer à l'assurance maladie un coût qui correspond à ce traitement. Donc si on a 2000 patients par an, on a les recettes nécessaires pour payer le loyer à la personne privée qui aura financé, conçu, construit et exploité l'accélérateur.
Donc ça n'a rien d'un établissement privé où les gens vont payer de leur poche pour se faire soigner.
C'est exactement la même chose qu'un hôpital classique. C'est-à-dire que le mécanisme que je viens de décrire est à peu près exactement le même que quand vous venez vous faire poser une prothèse de hanche dans un hôpital public. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes pris en charge par votre sécurité sociale, l'hôpital va facturer à l'assurance maladie le coût d'une prothèse de hanche. Voilà. Donc le mécanisme est exactement le même. Et donc là, en l'occurrence, c'est bien la collectivité qui va payer ce montant-là. Alors, on n'était pas parti immédiatement sur l'idée de faire un partenariat public-privé dans cette opération. D'ordinaire, lorsqu'une personne publique, comme un hôpital, veut construire un ouvrage, elle dispose d'un budget, elle conçoit un programme assez précis, elle sélectionne un architecte, elle choisit une entreprise, elle réceptionne le bâtiment, et à l'issue, elle en devient propriétaire. Ce qui veut dire qu'une fois qu'elle est propriétaire, l'entretien du bâtiment est à sa charge. Et c'était cette voie traditionnelle qui était initialement envisagée pour le projet Étoile. Ça ne s'est pas passé comme ça, pour différentes raisons. La première, c'est une raison de disponibilité des crédits publics dans le monde de la santé. C'est-à-dire que il y a des plans, qui sont le plan Hôpital 2007 et le plan Hôpital 2012, qui permettent de remettre à niveau le patrimoine des hôpitaux, et l'opération ne correspondait pas exactement aux critères fixés pour ces plans. D'autre part, le projet tel que je viens de le décrire, le projet Étoile, il dispose déjà d'un certain nombre de financements, en grande partie apporté par les collectivités territoriales. C'est un projet qui est financé assez largement par le Conseil régional, par le Conseil général du Rhône, le Grand Lyon. L'INCa, l'Institut national du cancer, y apporte également des financements, et l'État, via le ministère de la Santé, y apporte également des financements. La totalité de ce montant d'investissement public est aux alentours de 20 millions d'euros. Donc vous voyez qu'entre 20 millions d'euros et les plus de 150 millions d'euros dont je vous parlais, il y a comme un petit fossé. Donc ce petit fossé, c'est une des premières raisons qui explique le choix du PPP, c'était ce manque de disponibilité de crédit pour cette opération-là. Ceci dit, c'est qu'un des aspects, c'est sans doute pas le majeur. L'autre, c'était celui du risque technologique. On est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un équipement qui est un prototype. Il existe dans quelques pays au monde, développé en lien avec... développé en lien avec des universités et pas de façon industrielle. Étoile est le premier projet qui envisage de faire un centre d'hadronthérapie de façon totalement industrielle. Donc il y a une dimension risque technologique dont il paraissait assez logique qu'il soit pris plutôt par un partenaire privé qu'un partenaire public. Et dans ce cadre-là, le contrat de partenariat était assez adapté. Troisième raison, qui est un tout petit peu plus délicate, mais c'était que Lyon était en concurrence pour l'implantation de ce centre national d'hadronthérapie avec d'autres lieux. Et il y a eu une expertise qui a été faite par l'Institut national du cancer, à l'issue de laquelle en fait, le ministre de la Santé de l'époque a choisi d'implanter le centre à Lyon et pas ailleurs. Et la contrepartie du choix de Lyon comme site d'implantation, c'était qu'on fasse un PPP. Donc c'était quelque chose qui nous était, on va le dire, relativement imposé, parce que ça s'inscrivait dans une mode, je dirais. Il y avait un certain nombre d'hôpitaux qui étaient construits sous cette modalité-là, les hôpitaux de Saint-Nazaire, d'Évry, de Bourgoin-Jallieu, qui sont construits entièrement en PPP. D'ailleurs, les projets qui étaient réalisés en PPP avaient beaucoup plus de chances d'être retenus dans les plans d'investissement, comme le plan Hôpital 2007 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on peut dire, je crois, que dans le monde de la santé, en tout cas, c'est moins vrai pour d'autres secteurs publics, mais cette mode s'est assez largement estompée à la lumière des résultats des premiers PPP, et on privilégie beaucoup plus, à mon sens, d'autres modes de construction, comme les conceptions-réalisations. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme, hein, financement, conception, construction, mais l'exploitation n'est pas forcément laissée à la charge du partenaire privé. Ceci dit, le projet Étoile était sans doute un de ceux qui justifiaient le plus la mise en place d'un PPP. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait cette idéologie, entre guillemets, qui a poussé pendant un certain nombre d'années à construire des PPP ? C'est parce que ça offre quand même un certain nombre d'avantages relativement indéniables. C'est-à-dire que la personne publique va être amenée à se recentrer sur le cœur de sa mission. On peut se demander, de façon tout à fait légitime, s'il relève bien de la mission d'un hôpital que d'avoir des centaines de personnes qui sont chargées d'effectuer des missions techniques au détriment du soin, alors des personnes qui sont chargées de la restauration, de la blanchisserie, etc. Autant de choses qui de plus en plus sont déléguées au secteur privé, avec des résultats variables, mais ceci dit, il n'est pas illégitime de se poser la question. D'autant que la personne publique, elle va être amenée, dans le cadre d'un PPP, à transcrire son besoin sous forme d'attente fonctionnelle et non pas sous forme de moyens. Et la solution technique, elle va être laissée au candidat qui, a priori, est celui qui maîtrise le mieux la technique et la façon d'arriver à ce besoin. Par ailleurs, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est une procédure qui paraît particulièrement adaptée dans une période où les possibilités d'investissement public sont réduites, puisqu'elle permet de lisser un investissement sur plusieurs années, puisque la personne publique va ne payer que le loyer et non pas l'investissement initial. Un des gros avantages pour nous, je peux continuer sur les avantages, un des gros intérêts du PPP, c'est que cette procédure s'appuie sur un dialogue compétitif. Donc on n'est pas sur un appel d'offres classique qui nous oblige, nous, personnes publiques, à prendre une solution quasi clé en main. C'est-à-dire qu'on prend la moins pire des solutions qui nous est proposée. Alors que là, on est à une phase de dialogue compétitif en plusieurs tours qui va nous permettre de passer en revue à peu près tous les détails du projet et d'aller vraiment dans les détails avec les candidats. Dans mon opération, on est quand même dans l'opération dont j'ai la charge, ça fait quand même presque un an et demi qu'on est en train de négocier à peu près sur tous les aspects du projet. Je peux vous dire qu'on arrive à une finesse de négociation dans laquelle on ne serait jamais arrivé dans une solution classique. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant aussi et particulièrement adapté dans le cadre de notre projet, c'est le partage des risques. Ou plus exactement, pour être exact, le transfert de risques moyennant rémunération. Et dans une opération comme celle-là, avec une dimension recherche et développement particulièrement importante et un développement de prototype, c'était assez adapté. Un avantage énorme qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est que ça nous permet, à nous, personnes publiques, d'avoir une vision à coût complet, à moyen et long terme. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un investissement et ensuite cet investissement, une fois qu'il est payé, d'avoir une vision quand même relativement floue de ce que va être la maintenance de cet entretien à 20 ou 25 ans, là on a une vision complète des coûts tout de suite, même si elle fait peur initialement. Bon, le gain de temps est également un avantage indéniable. Il y a moins d'étapes de validation par la personne publique qui en général plombent un certain nombre des opérations qu'on est amené à prendre. Et puis moi, les deux avantages majeurs que je vois, et je m'arrêterai là-dessus, hein. Le premier, c'est que les PPP permettent une garantie sur le maintien en état du patrimoine. Si je vous parlais tout à l'heure des plans hôpital 2007 et 2012, c'est quand même le résultat d'un certain constat d'échec sur la capacité des personnes publiques à maintenir en état leur patrimoine. Pour des raisons toutes simples, moi j'ai été directeur des travaux d'un hôpital. Quand un hôpital est en déficit, c'est relativement clair, le premier arbitrage qui est à faire, enfin ce qui vient traditionnellement, c'est le budget maintenance. C'est indolore, on ne touche pas aux soins, on ne touche pas au crédit de personnel. S'il y a des arbitrages à faire, les crédits de maintenance sont ceux qui partent en premier. Donc dans ce cadre-là, un des avantages du PPP, c'est qu'il nous garantit un patrimoine en bon état. Alors la contrepartie, c'est qu'on se lie les mains sur une longue période, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis moi, l'autre système qui me plaît bien, c'est quand même que ce qui est au cœur du PPP, c'est le système partenarial. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à respecter les délais, parce qu'en cas de retard, les surcoûts financiers vont être très lourds pour les deux parties, et pas uniquement pour la personne publique, comme c'est le cas des opérations traditionnelles. Et puis, tout le monde a intérêt à ce que la construction soit de qualité et qu'elle rende satisfaction. Là encore, petit retour d'expérience sur mon expérience des opérations traditionnelles. Quand vous êtes en cours des chantiers, il y a toujours des dérapages de délai, il y a aussi toujours des dérapages de coûts. Et là, en tant que personne publique, pour rester dans l'enveloppe qui vous a été allouée, vous allez être amené à accepter de revenir sur la qualité des matériaux qu'on avait envisagé initialement. Et donc là, l'avantage du PPP, c'est que celui qui construit va être celui qui maintient, donc il n'a aucun intérêt à ce que les coûts de maintenance soient trop importants. Et puis, il y a un système de pénalités qui va être basé sur la disponibilité et la performance de l'équipement, qui garantit également à terme la qualité de l'ouvrage.
Et alors, juste en un mot, mais le principal défaut, c'est très cher ?
Alors, les défauts, ils sont nombreux. j'en ai évoqué rapidement un ou deux. D'abord, clairement, hein, on se lie les mains sur une période très longue. C'est-à-dire que quand on dit que sur 25 ans, on va avoir un loyer de temps, le temps pour une...
On se lie les mains financièrement aussi, c'est ça que ça veut dire.
Exactement. Moi, ça veut dire que, par exemple, très concrètement...
On alourdit ses charges.
On alourdit ses charges et en fait, on s'impose une dépense sur 20 ou 25 ans. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus faire d'arbitrage entre tel ou tel secteur. La personne publique se lie les mains sur une assez longue période. Deuxièmement, il y a quand même le coût global de l'opération. C'est-à-dire que autant l'avantage, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une vision des coûts complets à long terme. Mais enfin, quand on compare, même si on a peu de retour là-dessus, mais enfin, ce qu'on peut voir quand même des pays anglo-saxons, si on compare le coût d'une opération traditionnelle à une opération en PPP, on a un surcoût de l'ordre d'au moins 20% dans les PPP.
Surcoût d'au moins 20%. Alors, immédiatement, je me tourne vers Nicolas Bouteville, qui est le financier de cette table. L'investisseur, l'homme des chiffres, vous confirmez ces 20%?
Non, je pense que le 20% est un peu exagéré. Il est important de rappeler que quand on compare des projets en maîtrise d'œuvre classique et des projets en contrat de partenariat, les budgets et les coûts calculés sur les contrats de partenariat se font sur les coûts de construction et les coûts d'exploitation maintenance sur les 25 ou 30 ans du projet. Et c'est sur cette base-là qu'on établit cette comparaison, sachant que les évaluations préalables, qui sont des obligations qui sont faites aux personnes publiques aujourd'hui qui souhaitent mettre en place des contrats de partenariat, ces évaluations préalables sont sur la partie exploitation-maintenance et comparaison des exploitations-maintenance très difficiles à faire, puisque que soit certaines collectivités le faisaient, mais que soit l'État ou les collectivités n'avaient jamais calculé le coût de l'entretien-maintenance de leurs ouvrages publics. Et donc de ce fait, quand on arrive aujourd'hui à ces comparatifs, sur cette partie-là, c'est quand même du doigt mouillé. Alors peut-être, j'espère pas qu'on arrivera à 20%, mais aujourd'hui, je pense que c'est peut-être un peu, le chiffre est peut-être un peu exagéré à ce niveau-là. Alors on arrive à quelque chose qui est clair, avant d'expliquer un peu notre rôle, c'est effectivement le surcoût en période de construction. Il y a réellement souvent un surcoût, mais qui s'explique, comme vous le disiez, par le fait que le consortium va assurer la maintenance du bien pendant les 25 ans. Et je prends souvent un exemple, excusez-moi, c'est pas l'exemple le plus fantastique, mais ce sont les toilettes. Quand on construit sur des projets en contrat de partenariat et quand on réfléchit à la structuration des toilettes dans les bâtiments publics, eh bien le constructeur et donc le groupement va réfléchir systématiquement à mettre du carrelage jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Pour quelle raison ? Parce qu'il va calculer le nombre de fois et le coût qu'il aurait à la fois pour le nettoyage et la peinture. Le fait de repeindre ces murs pendant les 25 ans d'exploitation. Si c'est carrelé et bien carrelé jusqu'au bout, c'est un coup d'éponge et souvent ça peut tenir pendant une quinzaine, une vingtaine d'années. Donc il y a effectivement, on ne peut pas nier le fait que l'exploitation n'intervient pas dans la réflexion du coût de construction. Et ça c'est vraiment un point. On peut prendre un autre exemple puisque vous citiez les pénalités très fortes qui pèsent généralement sur la contrat sur le long terme. Les hôpitaux, nous particulièrement, on est en train de finir l'hôpital de Bourgoin que vous avez cité. Aujourd'hui, on réfléchit, puisque vous avez des pénalités, sur la mise à disposition des salles d'opération. Si ces salles d'opération sont indisponibles plus de tant de minutes, tant d'heures dans la journée, dans le mois, vous avez des pénalités très fortes qui pèsent sur les sociétés projets et tout particulièrement sur les investisseurs comme nous, j'y reviendrai. Et donc, pour s'assurer qu'on n'a pas ce risque, eh ben on va avoir tendance à investir dans un transformateur supplémentaire pour éviter, par une coupure de courant ou dans un hôpital normal, vous mettiez un transfo, vous en mettrez deux pour éviter ces risques et ces coûts de pénalité. Donc, voilà.
Donc ça veut dire qu'on a finalement intérêt, quand on fait construire par un acteur, à ce que ce soit lui qui exploite après, pour qu'il se sente plus responsable.
C'est le principe du contrat de partenariat. Il n'a d'intérêt qu'à partir du moment où vous liez les exploitants et les constructeurs sur une vision globale du projet, avec un contrat basé sur les performances de ce projet et la mise à disposition de ce projet pour la bonne gestion du service public. Alors juste pour rappeler qui nous sommes, parce qu'on a eu les interventions de deux des trois acteurs, on va dire, du marché et du monde des contrats de partenariat. Donc les industriels, bien entendu. Et attendez-nous. Je vais venir surtout et discuter avec vous sur la base d'exemples. Donc nous sommes les investisseurs. Donc moi, je représente un fonds d'investissement qui est le fonds d'investissement du groupe des caisses d'épargne. Et l'objectif qui a initié ce fonds était pour les caisses d'épargne dans l'ensemble du territoire français, qui sont un acteur qui travaille régulièrement avec les personnes publiques, de mutualiser leurs moyens pour suivre ces nouveaux contrats et pour avoir un acteur unique qui pouvait intervenir sur tous ces projets. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'acteurs financiers qui ont mis en place ces fonds d'investissement dédiés aux partenariats public-privé, avec pour objectif d'assurer la relation avec le secteur public et avec le monde industriel sur la structuration de ces projets. Donc il y a deux grandes étapes pour nous dans le contrat de partenariat. Il y a premièrement la première, que j'appelle l'étape de la réflexion et de la mise en place et de la procédure. Quel est l'objectif? Nous, on va chercher à comprendre, avec l'aide de nos partenaires locaux, les caisses d'épargne en l'occurrence, comprendre les besoins, les attentes des investisseurs, des personnes publiques, et nous allons chercher à constituer un consortium qui répondra au mieux à ces attentes. Le consortium, comme on l'a évoqué, est constitué bien entendu de constructeurs, d'exploitants mainteneurs et d'investisseurs. Donc ensemble, ces acteurs vont répondre dans les phases de dialogue qui ont très bien été détaillées, où on va avoir une discussion, un travail pour améliorer, aller jusqu'à répondre à l'ensemble des critères et des attentes de la personne publique, et dans certains cas, proposer des évolutions, des améliorations, tout dépend les différents dossiers. Le rôle de l'investisseur dans ce cadre-là, et comme les autres membres du consortium, d'essayer de comprendre les attentes et d'y répondre au coût le plus proche des évaluations qui ont été faites. Je crois qu'on peut quand même dire, on a peu de retours, mais on peut quand même dire que les premiers grands contrats de partenariat qui ont été signés, et là la MAP le dit, la MAP c'est la mission d'appui au partenariat public-privé du ministère des Finances, le confirmerait, les premiers grands contrats de partenariat ont été signés au prix qui avait été évalué par les évaluations préalables, donc qui avaient été faites 6 ou 8 mois avant. Les premiers projets liés, par exemple, au plan campus universitaire qui ont été signés, l'ont été au prix qui était prévu dans ces évaluations 6 mois avant. Donc on est dans une certaine logique aujourd'hui sur des projets qui sont appréhendés, et la personne publique arrive à amener les consortiums privés à un objectif financier qui était celui qui était prévu.
Il n'y a pas de dérapage au cours des négociations?
Il y a des dossiers où il y en a sûrement, mais aujourd'hui, la grande majorité arrive à rester dans cet objectif budgétaire qui était fixé dans le cadre de ces évaluations préalables. Après, il y a une deuxième étape qui est importante dans le rôle des investisseurs comme nous, c'est l'étape, si on a bien effectivement répondu à toutes les attentes de la personne publique, où ce consortium se transforme en société-projet, qui va avoir comme mission de construire l'infrastructure et de suivre son exploitation et maintenance. Donc là, je dirais que le rôle, autant sur la partie dialogue, vous allez avoir en avant les constructeurs et les exploitants qui vont intégrer dans tous leurs projets les besoins de la personne publique. Sur la partie suivi, le rôle de l'investisseur va prendre de plus en plus d'importance. Pour quelles raisons ? D'une part, parce qu'il va être l'investisseur majoritaire de la société projet, donc entre seul ou à plusieurs, ils vont détenir à peu près 80% de la société projet, pour une raison aussi assez simple, c'est une raison comptable, c'est que les industriels ne souhaitent pas détenir plus de 20% de la société projet pour ne pas avoir à consolider dans leur compte le coût de l'investissement global. Donc aujourd'hui, un rôle important, et surtout, aujourd'hui, on considère que l'investisseur se retrouve étant l'un des alliés de la personne publique. Allié de fait, puisque si on arrive à une situation où on ne respecte pas les coûts, les délais, c'est cette société projet dont elle est majoritaire qui a signé le contrat avec la personne publique qui va être la première frontale en matière de pénalités et de coûts. Alors certains, il est clair dans les contrats, on va avoir tendance à reporter une partie de ces risques sur le constructeur ou sur le mainteneur, mais on ne peut pas tous les reporter, sinon il n'y a aucun intérêt d'avoir des investisseurs et surtout pas de rémunération pour ces derniers. Donc on a un vrai risque à ce niveau-là. Alors, on a parlé tout à l'heure de délai, et je voulais juste citer quelques exemples. Aujourd'hui, ou en termes de comparaison, je vois celui qui est à l'écran, qui est la Guyane, qui sont les premiers lycées qui ont été lancés en France sous ce modèle de financement. La région a lancé 6 lycées en même temps, 3 lycées sous forme de PPP et 3 lycées sous forme de marché public. Les 3 lycées sous forme de PPP ont été livrés en temps et en œuvre pour la rentrée scolaire 2009. Les 3 autres sont toujours pas livrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des suppléments de coûts, parce qu'il y a eu des discussions, des modifications de programme. C'est figé. Comme on le disait tout à l'heure, la rigidité du contrat de partenariat est également un atout pour le respect des délais et des coûts. On signe avec un prix et avec un délai. Si on dépasse ces prix et ces délais, c'est une pénalité pour la personne privée. Si on ne livrait pas à temps, il y avait des pénalités très lourdes. Donc la personne privée va faire en sorte que l'infrastructure soit faite dans les délais et dans les coûts disponible pour la personne publique. Donc après, vous avez une variété d'acteurs. On a beaucoup parlé d'eau d'assainissement, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, beaucoup d'actifs partent sous ces formes de contrats. Vous avez, et je finirai là-dessus, vous avez des domaines dans la santé. L'éducation est très impliquée aujourd'hui avec les lycées, les collèges et les universités. Et vous avez aussi toute la partie numérique qui s'est développée. Je crois que quelqu'un l'a cité tout à l'heure. Où aujourd'hui les zones blanches en France sont en train d'être développées sous ce mode-là. Voilà, je suis prêt.
Quand vous mettez donc 26% dans le capital, 55%, ça c'est la participation de FIDEP, c'est ça ?
Exactement, hein ? Du fonds d'investissement.
Du fonds d'investissement. Alors, est-ce que vous êtes en général le seul investisseur financier dans ces opérations ? Est-ce qu'en général vous êtes plutôt allié avec d'autres investisseurs financiers ? Comment ça se passe ?
La logique de prudence et de répartition des risques fait que généralement on répartit au moins à deux acteurs financiers, deux investisseurs, le coût de la société projet. Ça c'est la pratique. Alors sur certains dossiers qui sont des grands contrats de partenariat très importants, vous avez le TGV Ouest qui est en cours de négociation, vous allez avoir 4-5 investisseurs pour répartir des coûts de montants de fonds propres qui souvent avoisinent plus de 200 millions ou 250 millions d'euros.
Et donc, en général, les investisseurs financiers ont plus de la moitié du capital de ces...
Ils ont généralement jusqu'à 80%.
Jusqu'à 80%.
Oui.
D'accord. Donc, ça veut dire que les constructeurs et exploitants, eux, investissent relativement...
Ils investissent moins dans la société projet, mais il faut rappeler que sur une société projet, dans le coût d'un financement, si le financement est 100, la partie fonds propres, c'est 10. Donc c'est variable, mais aujourd'hui on est autour de 10 en moyenne et sur 80% des dossiers sur lesquels on est à peu près à 10. Donc le montant des fonds propres, effectivement, les fonds propres ont un coût. Donc les modèles financiers vont faire en sorte de faire attention de ne pas mettre trop de fonds propres, d'alourdir le coût pour la personne publique. Il en faut suffisamment pour supporter les pénalités et apporter un minimum de garantie aux personnes publiques, sans qu'on ait trop non plus. Pour pas que ce soit un surcoût pour le projet public. C'est pour cette raison que les projets de moins de 50 millions d'euros...
Quand vous mettez 915 millions d'euros, 26% du capital, vous n'avez pas mis 26% des 915 millions.
Non, on a mis 26% de la part de le montant de fonds propres
qui est beaucoup plus faible.
Qui est moins important.
D'accord. Okay.